Il y en a pour toutes les bouches.
Et oui !
Il est 10h. Le flash sur Inter, Timur Öztürk, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dans une heure, Emmanuel Macron prononcera un discours sur l'Europe à Paris, à la Sorbonne, comme en 2017, même lieu, même format, un long discours de plus d'une heure attendu. Pourquoi maintenant ? Pour appuyer la campagne de Valérie Ayé aux européennes, loin derrière la liste RN de Jordan Bardella dans les sondages, 32% pour l'extrême droite, deux fois moins pour le camp présidentiel selon la dernière enquête Ipsos Radio France. Mais 7 ans après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, quel regard portent nos voisins sur son bilan? Les eurodéputés des pays européens, Angélique Boin, a posé la question à des élus de tous bords politiques réunis en session en ce moment à Strasbourg.
Au Parlement, l'engagement européen du président français est souvent salué, y compris en dehors de sa famille politique. Maria Marques est portugaise et socialiste.
Quelquefois, je ne suis pas d'accord, mais de toute façon, je pense qu'il a contribué positivement pour l'Europe.
Même analyse chez Andreas Schwab, membre de la droite allemande, mais il regrette tout de même son manque de pouvoir de conviction auprès des Français, dit-il, et de ses partenaires.
Macron a toujours démontré une très grande ambition européenne, et malheureusement, avec M. Scholz, c'était trop difficile. Il n'a pas pu convaincre.
Chez les Verts, l'engagement écologique du chef de l'État avait séduit en début de mandat l'Allemande Anna de Parnay, mais au fil du temps, il l'a beaucoup déçu.
On a un peu désenchanté et on a vu aussi utiliser l'Europe pour des fins complètement françaises. Sur le nucléaire, ça s'est senti dans toutes les discussions. C'était difficile.
À l'extrême droite, beaucoup associent le président Macron au bilan de la Commission. Gérald Falman, c'est belge et siège avec les élus du RN.
On ne peut pas continuer comme ça dans la voie globaliste, éco-fanatique, etc. Les Français doivent se débarrasser de Macron. Nous allons essayer de nous débarrasser de von der Leyen.
Ces eurodéputés n'écouteront pas le discours d'Emmanuel Macron. Ils seront en plénière pour la dernière séance de vote de la mandature.
Angélique Boin et donc discours d'Emmanuel Macron dans une heure à la Sorbonne, dans un autre prestigieux établissement de l'enseignement supérieur à Paris, Sciences Po. La police est intervenue cette nuit sur l'un des sites parisiens de l'école pour évacuer plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens. Aux États-Unis, les tensions sur les campus sont encore plus fortes. 93 personnes interpellées aujourd'hui dans une université de Los Angeles. Au Proche-Orient, une nouvelle frappe de drone dans l'est du Liban imputée à Israël ce matin. Hier, l'armée israélienne est montée d'un cran dans sa guerre contre le Hezbollah, la milice chiite libanaise alliée de l'Iran. 40 cibles du Hezbollah bombardées, la moitié des commandants de la milice tués dans le sud du pays, selon Israël. Israël, de plus en plus sévèrement mis en cause par l'ONU, par l'Union européenne et désormais par la Maison Blanche, après la découverte de fosses communes aux abords des principaux hôpitaux de Gaza, dévastés à huis clos par l'infanterie israélienne. La défense civile de Gaza affirme avoir exhumé 340 corps. L'armée israélienne parle d'allégations sans fondement, mais se justifie pourtant, disant avoir déterré des corps à la recherche de ceux d'otages, puis enseveli à nouveau ces cadavres. Le climat d'impunité doit cesser pour l'ONU. Washington veut des réponses. Hier, le Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages, celle d'Hersh Goldberg-Pauline, 23 ans, enlevée le 7 octobre lors du festival Nova. Hier soir à Jérusalem, des manifestants se sont réunis devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les manifestants ont conspué le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui tentait de fuir la foule. Renvoyer les hommes ukrainiens exilés en âge de se battre en Ukraine. Le ministre polonais de la Défense dit que son pays est prêt à aider Kiev sur ce sujet. Le gouvernement ukrainien a décidé hier de ne plus délivrer de passeport à l'étranger aux hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans. Et puis le Moulin Rouge a perdu ses ailes cette nuit à Paris. Une partie de la devanture du mythique cabaret de Pigalle s'est effondrée. Heureusement, personne sur le trottoir, pas de blessés. La direction du Moulin Rouge exclut tout acte de malveillance, mais ne comprend pas. Les ailes étaient pourtant en bon état. Malgré l'incident, il y aura bien 2 spectacles ce soir comme prévu.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce vendredi, France Inter, en direct du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel.
Laurent Goumard.
Vivez pendant 3 heures les temps forts du festival. Un peu de love et de tendresse avec Eddy de Préto.
Finalement, c'est ce qu'il nous reste.
Clara Isée viendra illuminer la scène. et de nouveaux messages personnels à Françoise Hardy.
Une soirée au Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
C'est ce vendredi sur France Inter de 20h à 23h.
Attention, attention, voici une publicité pour Monsieur Meuble. Donc, si vous aimez des meubles inconfortables, mal faits, standards, eh ben n'écoutez pas. Et oui, parce que chez Monsieur Meuble, les meubles sont confortables et bien faits. Mais surtout, vous bénéficiez de conseils personnalisés pour trouver votre meuble idéal et de solutions de paiement adaptées à votre budget. Monsieur Meuble, et vous êtes bien chez vous.
France Inter, partenaire de l'agenda culturel des Jeux 2024, du Parisien Aujourd'hui en France Week-end. Calendrier et infos pratiques des temps forts en Île-de-France et en région. Exposition, art de la rue, danse, littérature, musique, cinéma, théâtre. 32 pages pour profiter au mieux des événements culturels et artistiques autour des Jeux. L'agenda culturel des Jeux 2024, un supplément Le Parisien Aujourd'hui en France Week-end, à lire dès demain avec votre quotidien. Un partenariat France Inter.
Et vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 10h passé de 6 minutes, l'heure de retrouver Grand Bien Vous Fasse avec vous, Ali Rebéi.
Bonjour. Bonjour, Timo Rosturk, tout va bien? Vous
tout
avez l'air
bien.
En pleine forme.
Mais j'ai bien
que vous
dormi.
Prenez... Ah oui, c'est ça, c'est le sommeil.
Un jus d'orange ce matin,
ah
ça
oui,
aide.
En tout cas, donnez-moi votre secret, parce que voilà, vous avez une mine absolument formidable.
C'est très gentil.
Allez, on vous retrouve tout à l'heure, à 11h. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse aux haies. 70% des haies ont disparu depuis les années 1950 à cause du démembrement des terres agricoles. Entre 2017 et 2021, plus de 23 000 km de haies ont été arrachées. Des haies indispensables à notre biodiversité, mais aussi à notre bonheur. Car les limites de la haie nous ouvrent sur une richesse infinie, souvent hors champ. Les haies sont aussi un plaisir esthétique, poétique, qui convoque nos souvenirs d'enfance. La haie, ce mur vivant qui est à la fois une limite et un écosystème, une biodiversité à protéger. La haie, c'est aussi un enjeu politique qui rassemble chasseurs, associations de protection de l'environnement, collectivités, agriculteurs, tout le monde veut de la haie. Nous verrons ce que vaut le plan qui vise à gagner 50 000 km de haie d'ici à 2030. Et vous, racontez-nous votre rapport avec les haies, vos souvenirs d'enfance. Voulez-vous plus de haies dans notre pays? Nos invités vous attendent au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 par message et note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Ça garde l'ombre l'été, et puis quand il tombe de l'eau, ben, les bêtes ils se mettent à l'abri. Hein. C'est très important, même pour nous. Hein. Si on est dans le milieu d'un champ, qu'on n'a rien pour se protéger, on vient au pied d'une haie, s'asseoir au pied de la haie. Hein. Ça arrive.
Extrait du documentaire « La magie des haies » de Sébastien Bradu et Marie-Odile Lolani en 2009. Bonjour Sonia Ferchak.
Bonjour Ali Rebéi.
Vous êtes journaliste et écrivaine. Après un livre très remarqué consacré à Agatha Christie, vous changez complètement de registre avec un éloge de la haie publié chez Philosophie Magazine Éditeur. Bonjour Audrey Aligné.
Bonjour.
Vous êtes docteur en écologie, chercheuse à l'INRAE, et vous êtes membre de la Société française d'écologie. Bonjour Denis Chessou.
Bonjour cher Ali,
je suis ravi de
tous.
Vous accueillir pour la première fois dans cette émission.
Mais
vous
oui.
êtes journaliste, producteur, animateur de l'émission CO2, Mon Amour le Dimanche à
14h.
Et vous animez le podcast Bestiole, produit par Brigitte Lecordier et Stéphanie Fromentin. Oui. Et on peut le dire, vous êtes un pionnier dans le traitement des médias sur l'écologie. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes ravi, Sonia Ferchak, de rencontrer Denis Chessou.
Bon, on est ravis tous les deux.
Hein. Oui, je crois qu'on parle la même langue.
Et, donc Sonia Ferchak, pourquoi un livre sur les haies? Vous écrivez que vous vous sentez ridicule avec vos haies. Je vous cite, rien de grandiose ni d'extraordinaire dans mon sujet. C'est vrai que les haies ne tiennent pas le haut du pavé, contrairement au bois, à la forêt, au lac ou aux rivières.
Oui, ou à la montagne. Effectivement, j'ai eu comme une illumination. Je la raconte dans le livre, j'ai passé un été, l'été 2022, en Angleterre, au nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Et j'étais, je me promenais avec mon chien dans des potagers partagés. Des jardins ouvriers, et qui étaient séparés tous par des haies. Et je voyais mon chien fureter, et puis ça bruissait, ça bourdonnait, il y avait des fruits, etc. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, ce sont des murs qui m'empêchent de voir les jardiniers de l'autre côté, mais ce sont des murs vivants. Et là, l'essayiste que je suis a embrayé, je me suis dit, murs vivants, c'est intéressant, c'est une contradiction. Et je suis rentrée, j'ai appelé une amie jardinière, je lui ai dit, t'en penses quoi? Elle me dit, ah oui, c'est vrai.
Et en lisant votre livre, on découvre, ou on redécouvre que la haie est un monde d'une richesse extraordinaire. Pendant des décennies, vous ne remarquez pas cette disparition des haies?
Oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a frappée, c'est quand je suis revenue en France, je me suis dit, ben, je vais me préoccuper des haies, et je me suis rendu compte que, vous avez dit redécouvrir, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans le petit jardin d'Eure-et-Loir, où mes arrière-grands-parents avaient une maison, mais en fait je connaissais des haies, je les fréquentais depuis des décennies, et donc j'avais cette connaissance intime. Et là, c'est intéressant aussi, c'est ce rapport à l'enfance, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à avoir fréquenté un jardin tout petit avec des bottes en caoutchouc, puis on furetait, on allait chercher en plissant les yeux son ballon de foot là, pour pas se piquer, on regardait les cloportes, les grenouilles, et on a cette connaissance intime dont on n'a même pas conscience. Et d'en prendre conscience, tout à coup, ça ouvre un monde.
Sonia Ferchak, vous écrivez ceci, je crains que si on ne voit pas cette beauté, la beauté des haies, les choses tournent mal. Un paysage qui n'est pas considéré, apprécié, admiré, aimé, ne peut pas bien se porter.
Oui, alors ça c'est une des choses que j'aimerais beaucoup qu'on retienne du livre, c'est un concept que j'ai découvert qui m'a énormément plu, c'est l'extinction de l'expérience. C'est un lépidoptériste américain, Robert Michael Pyle, qui explique très simplement, quand il était petit dans le Colorado, pour aller à l'école, il traversait un marécage, il y avait des petits papillons. Quand ce marécage a été bétonné, le petit papillon a disparu. Et il était, lui, le seul, le petit garçon de 7 ans, à se rendre compte de la disparition. Et ce qu'il dit, c'est que quand une espèce disparaît, évidemment, l'expérience intime qu'on a, elle n'est plus possible. Et quand cette expérience intime n'est plus possible, on ne se rend pas compte que les espèces disparaissent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Il faut réapprendre, notamment aux enfants, à regarder, à avoir cette expérience.
Denis Chessou, il est vrai que les haies ne tiennent pas le haut du pavé. Et c'est un sujet majeur, les haies. Et vous le savez, vous, depuis des décennies que vous suivez ces sujets-là.
Alors ça, c'est fondamental, effectivement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette chance inouïe, au contraire, de voir la disparition des haies en faisant à peu près 6 000 km par an en randonnée à vélo. Pas plus tard, en fait, que lundi, là, j'étais dans les Hautes-Pyrénées, après avoir descendu de merveilleux cols. Et donc, je vois quelqu'un qui est en train de tailler sa haie, alors que c'est pas exactement, si vous voulez, la période. Hein. Donc, il faut quand même, évidemment, se calmer. Alors, je lui dis, pourquoi vous faites ça? Il dit, parce qu'il faut faire propre. Alors ça, c'est la maladie du propre. Ça, c'est un grand classique que l'on connaît, donc les uns et les autres. Et puis après, il dit, et puis vous voyez, il y a tellement de nature autour, de toute façon, ça ne fait pas de mal. Bon, je me suis dit, ok, le dialogue va pas être très, très simple de ce côté-là. Oui, donc effectivement, moi, je les ai vus passer à la trappe, à l'épareuse, parce qu'à partir du moment où vous avez un agrandissement de plus en plus important, une concentration donc, des agriculteurs, c'est quand même une des causes absolument majeures. Et évidemment que c'est un élément de vie qui est fondamental. Et que l'on découvre, parce que vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'on a plutôt une admiration pour les arbres. C'est-à-dire que les gens vont se mobiliser, faire des associations, dès que vous avez 3 arbres qui tombent, parce que vous avez un maire qui a envie de faire un parking, donc il vous dit, votre arbre est malade, et donc on va le tuer. Bon, donc sur l'arbre, il y a un affectif. Sur les forêts, il y a aussi un affectif, même si les gens ne savent pas toujours très bien comment ça fonctionne. Mais sur les haies, qui est donc un continuum d'arbres, d'arbrisseaux, d'arbustes, la chose est tout à fait effectivement différente, et pourtant, c'est un élément de vie qui est fondamental.
Sonia Ferchak, vous n'êtes ni botaniste ni agroforestière, pourtant vous les aimez sacrément ces haies, et on le sent dans vos descriptions des haies, de la nature, qui rappelle, je le dis, souvent Colette.
Ah oui.
Franchement, c'est d'une écriture, d'une poésie absolument incroyable. Et après avoir lu votre livre, on se dit, mais je vais défendre les haies, je veux des haies dans notre pays.
Alors, merci beaucoup, ça me fait évidemment très plaisir, j'aime énormément Colette.
On sent votre amour de Colette dans ce livre.
Oui, elle nourrit tout mon imaginaire, justement, des toutes petites bêtes qui sont jugées insignifiantes. C'est aussi pour ça que je disais, je me sentais un peu ridicule avec mon sujet, c'est-à-dire qu'on lit Anastasia Martin qui se fait attaquer par un ours au nord de la Russie. C'est pas du tout comme de regarder un cloporte ou de se faire envoyer un gel malodorant par une punaise des bois. Mais en même temps, il y a cette merveille de prendre le temps, ça ancre les haies. C'est-à-dire de prendre le temps, même là, en venant à vélo à la maison de Radio France, là c'est le printemps, ça, là, il va y avoir les troènes qui vont embaumer, les lauriers cerises qui sentent tellement bon. Alors c'est un peu horrible, c'est avec le réchauffement, mais alors c'est vrai que là, les pollens sont à fond. On voit, regardez les bourdons, c'est absolument ravissant, c'est tout poilu, on dirait des petits ours miniatures avec leurs petites cuisses toutes gorgées de pollen. Là, c'est un spectacle émerveillant. Et c'est Rousseau qui dit que ça doit être la première éducation des enfants, c'est l'éducation à regarder. Or, la haie, c'est un écosystème extraordinairement riche, parce que c'est une tranche de forêt. Vous avez parlé de continuum, Denis, et c'est vrai que pour nous, souvent, ça nous arrête au fond d'un champ, au fond d'un jardin. Mais pour les oiseaux, pour les rongeurs, pour les mammifères, c'est un corridor biologique qui permet de traverser en toute sécurité des espaces.
Tiens, Audrey Aligné, qu'est-ce qu'une haie et qu'est-ce qui caractérise les haies sous nos latitudes ?
Alors, les haies, on les définit souvent comme un alignement d'arbres, d'arbustes, ça a été évoqué juste auparavant. Et elles ont aussi une diversité de formes. Je pense que ça, c'est important de le souligner. En fait, on va avoir des haies avec des arbres, des haies avec des arbres et des arbustes, parfois que des arbustes. Et voilà. Et aussi, c'est un élément donc linéaire du paysage et pérenne. Ça, c'est important de le garder en tête. C'est-à-dire que la haie, c'est pas labourée au pied. C'est quelque chose qui va rester stable. Et c'est bien cet aspect de stabilité, de pérennité, qui fait qu'on va y observer une grande biodiversité, telle que ça l'a été évoqué.
Évidemment, Audrey Aligné, selon les régions et la topographie, les haies ne sont pas structurées de la même manière.
Évidemment. En fonction des sols, du climat, en fonction aussi de l'agriculture, bien entendu, on va avoir différents faciès de haies. Et puis, il y a aussi tout l'aspect culturel. En fait, près de Rennes, là où je travaille, eh bien, on a des haies avec une forme particulière liée à leur entretien, qui s'appellent donc des ragosses ou des trognes. Mmh. Et donc ça leur donne un aspect tout à fait singulier qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions de France, par exemple.
Audrey Aligné, quelle est les principales fonctions de la haie ?
Alors, il y en a beaucoup, en fait. On pourrait citer, donc, bien sûr, en premier lieu, l'accueil de la biodiversité. Là, je rejoins tout à fait ce qui a été évoqué. Les haies, on y retrouve beaucoup de plantes, on y retrouve des oiseaux, on y retrouve des mammifères, on y retrouve des reptiles, des insectes, des pollinisateurs aussi. Donc, voilà, beaucoup de biodiversité, mais elles ont aussi d'autres fonctions. Elles sont capables de limiter l'érosion des sols, par exemple. Elles sont aussi un effet brise-vent. Ça a été évoqué avec le petit témoignage en introduction, où en fait, elles vont pouvoir protéger, par exemple, le bétail de la pluie, du vent. Elles vont également protéger les cultures, ça marche aussi, en limitant l'évapotranspiration. Donc en fait, elles vont avoir un rôle tampon envers le climat, ce qui fait que ça va permettre de limiter par exemple les événements extrêmes de type des chaleurs importantes, enfin des événements climatiques avec de fortes chaleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
Et bien sûr, Sonia Ferchak, bien sûr, les haies constituent des limites, à la fois physiques et symboliques.
Oui, alors ce qui est intéressant quand on s'intéresse justement à la haie comme objet de pensée, ce que j'ai essayé de faire, puisque contrairement à Audrey Aligné, je ne suis pas du tout une spécialiste, c'est qu'on est souvent entre deux. C'est-à-dire que vous parliez de la maladie du propre, on est entre propreté et saleté. Ça peut paraître crache-pougne une haie. Et puis en fait, c'est un endroit qui est souvent non traité. Donc finalement, on se dit, mais ces champs au cordeau, ces allées de gravier où il n'y a pas une plate-bande, ça peut paraître propre, mais en fait, ça peut être bourré de pesticides. Donc ça interroge sur ses limites intérieures, extérieures, sauvages et domestiques, évidemment nature et culture. Donc ça fait réfléchir à cet entre-deux, à ses limites et limites psychiques, parce qu'effectivement, ça protège.
On continue à s'intéresser aux haies, aux limites physiques et symboliques qu'elles constituent, entre ordre et désordre, sauvage et domestique, nature et culture. Et puis, on s'intéressera également au rôle essentiel, bien évidemment, des haies comme habitat de la biodiversité. Ce sera juste après avoir écouté France Gall, comment lui dire, une chanson de 1975, Denis Chessou n'était pas né. Eh oui, 10h19 sur France Inter.
Il est gentil.
Au beau milieu de la foule.
Gall interprétait « Comment lui dire ?»
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Que raconte Léa sur notre société, notre rapport au monde vivant? C'est notre question ce matin en compagnie de Sonia Fertschak, qui publie un éloge de La Haye avec le journaliste et animateur Denis Chessou et avec la chercheuse en écologie Audrey Aligné. Et un pan sur le bec, et elle a bien fait, Elisabeth, de nous envoyer ce message. On ne dit pas le démembrement, mais le remembrement. Et je m'en suis aperçu en le disant tout à l'heure en introduction. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette attention. Alors, quels sont vos souvenirs d'enfance liée aux haies, car vous l'écrivez, Sonia Fertschak, les haies sont des hauts lieux de l'enfance.
Alors, quand j'y repense, ce qui me frappe, c'est la surprise, en fait. Il y avait plein de surprises dans les haies, parce que les haies, on peut les longer, donc on ne les regarde même pas, puis on entend un son, et puis on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Il y a un hors-champ, en fait, de la haie. Et moi, je me souviens, petite, avoir été émerveillée parce que je cherchais des petites bestioles, des petits cloportes, des petits gendarmes et tout ça. Et un jour, j'ai trouvé un Orvet. Et j'avais l'impression d'un trésor et j'ai observé ce lézard sans pattes, qui n'est pas un serpent. Et mon père m'a expliqué ce que c'était, etc. Je l'ai observé. Et voilà, il y avait cette notion de trésor. Et je trouve ça très, très important parce que... donc, on est à Paris et... Et c'est vrai que, par exemple, les murs végétaux, qui sont très à la mode, ne contiennent pas cette notion de hors-champ et de surprise. Alors qu'un peu plus loin, par exemple, il y a des rues dans Paris où il y a des pauvres haies ou des belles haies. Mais là, il peut y avoir une surprise. Il peut y avoir, je sais pas, un chat perdu. Et cette notion de surprise, elle est très importante parce qu'elle nous maintient en attention. Et l'attention pour la nature, c'est important.
Et vous, Denis Chessou, souvenir de haies dans la Nièvre.
Alors,
vous aviez même donné un nom, oui, à votre haie.
C'est pas moi qui l'ai donné, mais c'est ma tante Marie, qui est une femme assez extraordinaire. Elle est morte à 104 ans. Elle avait d'ailleurs pas mal d'humour parce qu'elle disait, écoutez, le jour où je vais mourir, de toute façon, il ne faudra pas en vouloir à ma nourrice. Elle aura fait le boulot. Bon, très bien. Donc ça, ça donnait le ton. Moi, non, j'ai eu cette chance inouïe à la fois d'être élevé dans le Tarn, ce qui nous fait un petit point commun avec la Haute-Garonne, cher Ali, d'un côté, et aussi donc dans la Nièvre, côté maternel. Et là, donc, il y avait cette tante Marie. Et on était dans le Bazois, pour être précis. C'est-à-dire que d'un côté, sur votre main gauche, vous voyez le canal du Nivernais. Sur la main droite, vous avez les contreforts, donc de ce merveilleux Morvan, voilà. Et là, il y avait donc cette tante qui était vraiment écologiste avant l'heure. Et il y avait cette haie donc qui était absolument superbe et on allait visiter la haie. Et quand vous êtes, quand vous avez 4-5 ans, que vous voyez cette tante qui va embrasser l'arbre tous les jours, le chêne, pour le saluer et prendre son énergie, déjà, ça vous donne une sacrée pêche. Et puis, c'est là que j'ai appris l'alphabet des arbres avec elle. C'est-à-dire la lettre C comme le chêne, comme le cornouiller, la lettre N comme le noisetier, le H comme le hêtre, etc. Donc, il y avait ce chêne qui était vraiment de très haut jet qui dominait. Et puis, donc, on allait découvrir. Alors, mes premiers hérissons, je les ai vus là, bien sûr. Donc, là, au bout de 4-5 ans, vous dites, ah, qu'est-ce que c'est, etc. Bon. Et puis, le soir, on grimpait sur l'escalier qui montait donc au grenier. Il y avait une petite plateforme en bois. On regardait le soleil couchant et on regardait la haie. Et elle me dit, là, tu vois, le renard va sortir. Et effectivement, le renard, donc, sortait. Alors, comme elle était, bon, assez open, de temps en temps, il lui bouffait une poule. Enfin, elle disait, bah, il faut que tout le monde vive. Bon, il fallait pas qu'elle le mange toujours. Mais donc, cette haie était donc un réservoir absolument incroyable. Et pas loin, vous aviez Chitry-les-Mines. Je le dis parce que Chitry-les-Mines, association d'idées avec le renard, Jules Renard était le maire de Chitry-les-Mines, donc à côté de Corbigny. Et cet homme-là nous disait quand même, ça nous rejoint sur là, il disait, les arbres échangent des oiseaux comme des paroles. Donc quand vous êtes nourri par cela, par cette grande haie, vous comprenez tout de suite que le vivant a toute son importance.
Sonia Fertschak.
Oui, et juste, elle s'appelait comment votre haie ?
Prunelle, parce que...
alors, le prunelier.
À cause du prunelier, bien sûr. Oui, vous l'avez très bien dit. Elle s'appelle Prunelle, voilà.
Audrey Aligné, des souvenirs d'enfance liés au lait, au et.
Alors, pas tant dans l'enfance, parce que moi j'ai grandi au nord de Lyon et on est plutôt sur un paysage très ouvert avec des petits massifs forestiers. Donc c'est venu plus tard, en fait, je dirais. Et là, ce qui m'a marqué, c'est la richesse. Un petit peu cette richesse d'odeur, de couleur, de son aussi, qu'on peut trouver autour des haies, voilà, avec tout le bourdonnement des insectes, l'explosion de couleurs associées aux fleurs que l'on retrouve soit au pied de la haie, mais aussi dans les arbres. C'est ça, mon souvenir.
Alors, Sonia Fertschak, vous prenez donc conscience de la disparition des haies dans notre pays à l'été 2022, vous l'avez dit, en vous promenant à York, dans le nord de l'Angleterre. Ce qui vous frappe, c'est que les haies sont omniprésentes. Vu du ciel, d'ailleurs, en regardant des images satellites, cela saute aux yeux. Le Royaume-Uni a conservé son bocage. Alors, comment expliquer cette nette différence entre le Royaume-Uni et la France ? Je rappelle qu'en France, plusieurs milliers de kilomètres de haies disparaissent chaque année. 70% des haies sauvages ont disparu depuis 1950. Alors, c'est à cause du remembrement après la Seconde Guerre mondiale qui a donc dévasté le bocage.
Oui, alors en France, c'est vrai que à partir de 1950, on a eu, et ça, il faut quand même le dire, ça a sauvé des centaines, des milliers d'agriculteurs.
Bien sûr.
On a eu les machines de plus en plus importantes et sophistiquées qui prenaient beaucoup de place. Et donc, pour qu'elles puissent passer dans les chemins, entre les champs, ben, on a arraché des haies. Il y a aussi la baisse de l'élevage en pâturage, puisqu'on voit très bien que là, les régions qui ont conservé leur bocage sont souvent des régions d'élevage. Et puis aussi, les agriculteurs, comme tout le monde, ont acheté des voitures, et donc les chemins qui n'étaient pas assez larges, on les élargissait, et pour ça, on a arraché des haies. On n'avait pas forcément encore conscience. Alors que les Anglais, eux, ont eu ce mouvement des enclosures.
Expliquez ce que c'est.
Alors, c'est notamment les Enclosures Acts, en 1770 et quelques. C'est ce mouvement qui a autorisé les seigneurs à clôturer une partie de leur terre qui, jusque-là, ils réservaient aux communs, c'est-à-dire qui étaient...
C'était les biens communs.
C'était les biens communs qui étaient cultivés en open fields, les champs ouverts. Voilà. Et donc, ils ont autorisé seulement certains à les cultiver. Karl Marx y a vu un déferlement du capitalisme, mais ce faisant, pour clôturer leurs champs, ils ont planté des arbres qui protégeaient le bétail.
Denis Chessou ?
Moi, je vais rajouter quand même une petite chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une perte, évidemment, de culture. C'est-à-dire que nos anciens, moi, je voyais très bien, donc, ils faisaient avec la nature, comme ils pouvaient, ils faisaient avec la nature, et après, on a fait contre. C'est-à-dire que le syndicat majoritaire, donc, aujourd'hui, a eu une espèce de je ne vais pas dire de haine, mais enfin, en tout cas, c'était une haie, c'était insupportable à la liberté de produire. Ce qui fait qu'on les a quand même aussi merveilleusement défoncés. En plus, elles n'étaient pas, comme on dit, primables, c'est-à-dire qu'elles ne touchaient pas de primes. Oui. Ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, ça a été open bar. C'est-à-dire qu'effectivement, on a défoncé merveilleusement tout ça. Et quand vous disiez, c'est vrai qu'on parle de remembrement, notre auditrice a raison, de remembrement. Mais en fait, on a complètement démembré. C'est-à-dire que ce n'était pas faux, le terme.
C'est un lapsus, en fait.
Non, il était très positif, Ali. Parce qu'on a tellement arraché cela, comme on arrache un bras, que ça a été ça. Donc, pendant des années, c'est-à-dire que, à partir du moment où on a transformé, et c'est pas une critique, c'est un constat, où on a transformé, si vous voulez, l'agronome, qui était l'agriculteur, en parfait petit chimiste, en lui filant la boîte du parfait petit chimiste, et avec de l'énergie qui ne coûtait pas cher, la haie n'avait plus du tout le même regard, non plus, de bienfaits qu'elle pouvait aussi apporter.
Alors, bon. Je vais me faire l'avocat du diable tout de même, parce que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette politique a quand même produit des effets positifs, d'augmentation des rendements, et puis une amélioration de la vie des paysans français, il faut le dire aussi.
Mais ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'une des, raisons pour lesquelles les agriculteurs ont pris la haie comme symbole, c'est parce qu'il y a ils l'ont pris comme symbole de la folie administrative, et il faut certainement simplifier. Mais par ailleurs, justement, il y a certainement ce sentiment qu'elle fait partie de notre culture. Je suis intervenue dans un lycée du Bourbonnais, et je parlais d'agriculteurs, il y a un monsieur qui m'a dit mais pourquoi vous ne parlez pas de paysans ? Dans paysans, il y a pays. Et j'ai dit, dans l'agriculture, il y a culture. Et la culture du pays, cet attachement au paysage qui est si importante aujourd'hui, je pense qu'on le ressent tous.
Votre regard, Audrey Aligné ?
Oui, alors moi ce que je voulais souligner effectivement, c'est que cette décroissance des haies est liée au fait qu'elles représentaient, elles étaient un symbole d'archaïsme, il fut un temps en fait. C'était beaucoup de travail que d'entretenir les haies, c'était aussi toute une société qui était organisée envers ces haies. Et avec effectivement le productivisme, les remembrements, la haie a perdu ce statut un petit peu social, son statut aussi... important au milieu de la société pour glisser vers cet archaïsme et qui a contribué aussi à sa disparition.
Brigitte nous écrit « J'étais jeune lors du remembrement et tous les adultes autour de moi étaient effondrés. J'en ai gardé une impression de catastrophe terrible, irréversible. J'ai le sentiment que nous, les humains, détruisions la Terre. » Nous accueillons Jackie. Bonjour Jackie.
Bonjour.
Vous appelez de Saône-et-Loire. Vous êtes agriculteur, oui. C'est ça ? Paysan ? Qu'est-ce que vous préférez comme terme d'ailleurs ?
Bon, bah, les deux. Alors, c'est vrai que paysan, il y a pays. Et puis, on pourrait dire que paysan, bah, c'est les artisans du paysage, quoi. Mm-hmm. Et autant, c'est un terme peut-être un peu péjoratif à une époque aujourd'hui.
Oh non, ça ne l'est plus aujourd'hui, je pense. Au contraire.
Ça ne l'est plus, c'est vrai. Ouais. Mais alors, je vous écoute depuis un petit moment. Donc, moi, ce qui me surprend toujours, c'est, bon, voilà, c'est un peu frustrant, c'est qu'on écoute des gens parler des haies, mais nous, bah, on est sur le terrain, quoi. Et je vais avoir 50 ans, je suis installé depuis l'âge de 21 ans. Mm-hmm. Les haies, je les connais bien, dans Saône-et-Loire. Si vous voulez venir voir des haies, dans Saône-et-Loire, en Charolais Bouillonnais, il y en a partout, parce qu'il y a l'élevage charolais. Et c'est vrai que votre invité l'a dit, c'est grâce à l'élevage, s'il y a des paysages, des prairies et des haies. Alors, les haies, nous, elles ont été longtemps vécues comme une contrainte, c'est normal, il y a l'entretien, on a voulu agrandir des parcelles, mais c'est vrai aussi bah, qu'elles protègent les animaux du froid, du vent, elles délimitent les parcelles, elles ont vraiment un rôle. Et nous, en plus, je peux ajouter qu'on a eu une appellation, une AOP, et à l'époque, quand on a créé l'AOP Bœuf de Charolles, les gens qui l'ont construite ont pensé à mettre dans le cahier des charges qu'il fallait qu'il y ait des haies dans les prairies d'engraissement des animaux. Et ils ont vraiment été précurseurs pour ça. Voilà, je tiens à souligner. Et par contre, il faut pas être critique envers notre métier, parce que aujourd'hui, alors c'est un autre débat, il y a un tel équilibre entre les gens qui travaillent pour nourrir et les gens qui se nourrissent. Il n'y a plus personne dans les campagnes et les villes ont augmenté. Il y a le problème de main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'entretien des haies, il se faisait à la main. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des machines. C'est vrai que les haies, elles sont. Il faudrait plus de haies hautes. Mais une haie haute, c'est beaucoup plus d'entretien. Alors on les taille avec des machines. Et aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai changé notre épareuse cette année, on a acheté une. Une épareuse, ça coûte 40 000 euros.
40 000 euros.
Voilà. 40 000 euros. Et j'y passe, alors on a des dates hein, pour respecter l'entretien des haies, je crois que c'est à partir du 1er septembre jusqu'au 15 mars, je crois. Mais ça, c'est voilà, c'est logique pour faire attention, je crois qu'aujourd'hui les éleveurs le comprennent, ça, on a avancé. Mais pour dire, on y passe beaucoup de temps aussi. C'est vrai que c'est voilà. Alors, il faut comprendre tout ça. Et quand on reçoit des. Il faut penser à ceux qui sont sur le terrain, quoi.
Bien
ils
sûr.
Travaillent tous les jours. Et c'est pas si simple. Et on en est conscient. Et voilà. Alors, aujourd'hui, dans plein de domaines, on écoute parler des écrivains, des gens. Mais pensez à faire parler.
Bien sûr, c'est pour ça.
C'est important.
C'est pour ça, Jackie, qu'on vous prend au téléphone aujourd'hui. Et c'est vrai que Sonia Ferchak est une écrivaine qui parle des haies, mais elle est allée sur le terrain, elle les aime. Et en tout cas, elle le dit à un moment donné dans son livre, c'est que les haies, c'est un point de rassemblement entre dans une société très clivée entre agriculteurs, défenseurs de l'écologie, chasseurs. C'est un point de rencontre et de encore de la haie, Sonia Ferchak.
Oui, et puis peut-être même encore plus, et depuis que 2 mois que le livre est sorti, là, m'est venue une idée, justement, dans ce lycée agricole, et je vous rejoins tout à fait, Jackie, et même pour vous dire, j'ai eu ce complexe, et vous avez totalement raison, je me suis dit, mais je suis la parisienne qui va parler des haies, c'est pas sérieux ce truc-là. Du coup, j'ai fait relire, d'ailleurs, notamment par une copine qui est agricultrice et biologiste, pour qu'elle me dise, non mais là, ça va pas, etc. Mais très important, c'est que vous avez dit, vous nourrissez les gens, et c'est vrai, et m'est venue cette idée que, en fait, il y a des professions qui sont les haies de la société, qui font le lien, et vous avez cette responsabilité directe de nous nourrir et de faire, et quand on fait, ben, voilà, on se confronte, et la haie, finalement, on est confronté au réel face à une haie, et ça m'a semblé important.
Denis Chessou. Ce sont des vrais choix de société, et bon, là où je rejoins Jackie, c'est-à-dire qu'en fait, sur le petit couplet que j'ai fait, aujourd'hui, 52% du territoire est donc, comme on dit très joliment, géré par les agriculteurs. Mais c'est un milieu qui est totalement hétérogène. Et heureusement que nous avons donc ces éleveurs, parce que donc avec ma tante Marie en question, je suis quand même oublié de préciser effectivement qu'on était aussi en territoire du Charolais. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de haies. Et là, on le comprend très très bien. Si vous allez dans la Beauce en Champagne-Berrichonne, là, vous les regardez vraiment au millimètre, hein, les fameuses haies. Donc c'est effectivement différent. Et donc c'est absolument nécessaire. Mais c'est vrai que ça n'a pas été poussé pendant un certain temps, donc de pouvoir garder les haies. Là, il y avait quand même des politiques, effectivement, qui ont permis aussi d'arracher joyeusement tout ça. Mais bien sûr que nos agriculteurs, et nos éleveurs en particulier, en sont conscients.
Audrey Aligné.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier hein, cet aspect gestion et le lien au système de gestion. Je pense que c'est très important. Avec les discours qu'on entend planter des haies, par exemple, bah, certes, mais derrière, il faut aussi se dire que c'est beaucoup de travail et que nos agriculteurs contribuent aussi, enfin, ont ce travail à faire et au-delà de nous nourrir, ils contribuent à nos paysages. Et donc là, c'est vraiment un travail à leur reconnaître.
Juste une petite chose, Alice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 22 500 kilomètres, ça c'est des chiffres officiels, qui sont arrachés, on en replante 5 000. Bon, donc le déficit, il est quand même là. Donc ce serait déjà pas mal, effectivement, de replanter des haies. Oui, c'est nécessaire, mais déjà de pas forcément dévasser ce qui existe.
Jackie, vous restez avec nous ? Je vous propose de rester avec nous. Restez avec nous, on a besoin de vous dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Nous évoquerons les haies garantes de la biodiversité. Ce sera juste après avoir écouté The Black Keys, Beautiful People.
Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. I get higher and higher when I'm with her. Never coming back. All those beautiful people say hey. All those beautiful people.
The Black Keys interprétait Beautiful People.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de où. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de où. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous.
Et non, on les aime, les ce matin. Vous avez reconnu François Morel qui interprète une chanson de Raymond Devos, Je hais les. Alors que racontent les haies sur nous, notre société, notre rapport au monde vivant? C'est notre question ce matin en compagnie de Sonia Fertchak qui publie un éloge de la haie avec le journaliste Denis Chessou et avec la chercheuse en écologie Audrey Aligné. Beaucoup de témoignages ce matin. Par exemple, Françoise qui nous dit « J'habite en ville, Toulouse, à 300 mètres du lycée Bellevue. » Petit clin d'œil à votre serviteur. Petit jardin avec une haie ouverte de 30 mètres avec nos voisins que plantés en ville. Il y a déjà des petits arbustes, du lierre et des oiseaux. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, Denis Chessou, à notre auditrice Françoise?
Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé aux abeilles. Alors, les abeilles, évidemment, c'est le totem, notre Apis mellifera. Mais il faut quand même rappeler que parmi les pollinisateurs, vous en avez quand même plus de 1000 facilement. Vous avez des lépidoptères, vous avez des chauves-souris. Donc, si vous les attirer, si vous voulez prendre des mellifères, bon bah là à ce moment-là, on va pouvoir se lancer merveilleusement. Vous avez l'arbre à papillons, vous avez le forsythia, le troène marche bien aussi, etc. Donc il y a ça. Ça dépend ce que vous voulez évidemment en faire. Si vous voulez du décoratif, si vous voulez que la personne ne rentre pas, il faudra mettre des épineux. Vous voyez, parce que là, c'est ça.
L'aubépine,
formidable, merveilleux piquant. Mais donc ça va. Non, voilà, ça va dépendre de l'usage un peu que l'on souhaite.
Alors Françoise parlait de haies qui séparaient les voisins. On évoque évidemment les haies naturelles, mais il faut aussi parler des haies comme moyen de délimiter deux propriétés. Sonia Fertchak, entre voisins, elle marque une séparation, elle se porte garante de l'intimité, mais qui dit haies dit limite, qui dit limite dit territoire, qui dit territoire dit conflit potentiel entre voisins.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on peut parler par-dessus la haie.
On peut essayer d'écouter ce qui se dit
sans être vu, on peut espionner.
Ça, c'est votre côté Agatha Christie. Hein.
Complètement. Ce que je trouve intéressant, c'est que la haie, c'est une limite qui rassure, c'est-à-dire qu'on en a besoin, et en même temps, c'est pas une limite dramatique, et surtout si elle est jolie comme celle que Françoise s'apprête à entretenir et à planter. J'ajoute qu'on peut rajouter plein de lianes, de chèvrefeuilles qui commencent à fleurir, de rosiers grimpants, et cet enchevêtrement, ce désordre végétal est absolument réjouissant. Et par ailleurs, donc des limites qui sont positives, et en même temps des limites effectivement qui séparent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont souvent les mêmes.
Sonia Fertchak, la haie matérialise une limite physique entre deux parcelles de propriété, c'est aussi une limite symbolique qui amène, selon vous, à repenser certaines oppositions, certains dualismes établis de longue date, sauvage, domestique, extérieur, intérieur, ordre, désordre, nature, culture.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut... Moi, avant d'écrire ce livre, quand j'avais pas encore travaillé sur le sujet, je me disais, mais en fait, la haie, c'est la nature. Pour moi, depuis que je suis petite, la haie, c'est naturel, c'est foisonnant. Et puis, en fait, les haies, elles remontent parfois au néolithique. Enfin, depuis qu'il y a eu de l'élevage, en fait, pour protéger le bétail. Et effectivement, elles traduisent des oppositions liberté, contrainte. On a parlé de saleté, propreté, toxicité intérieure, extérieure. Et donc, on peut jouer avec ça. On peut d'ailleurs faire des expériences située, comme disent les sociologues, c'est à réfléchir, c'est quoi la haie pour le mouton ou pour la coccinelle ou pour l'humain. Donc tout ça, ça amène à changer de point de vue, à éprouver notre sensibilité, et ça fait un bien fou, c'est-à-dire qu'on se sent vivant, on se sent en résonance avec le monde qui nous entoure, et ça fait réfléchir et comprendre que ces limites, une haie, ça va vite à arracher un arbre,
très vite.
Parlier des pareuses, tout ça est tellement rapide.
En un quart d'heure, c'est fait, alors qu'il faut 30 ans à 100 ans pour fabriquer
exactement.
Une haie, il ne faut jamais l'oublier, ça.
Et ça permet de réfléchir à ça.
Dans les haies, de nombreuses espèces prospèrent, souvent considérées comme invasives, les fameuses mauvaises herbes, sans oublier les animaux considérés comme nuisibles, bonnes ou mauvaises herbes, espèces végétales invasives ou non, les haies mettent en lumière ces oppositions.
Oui, alors, il faut différencier, c'est vrai qu'il n'y a pas en soi de mauvaises herbes, de mauvaises plantes.
Mais
ou
des herbes que l'on ne connaît pas, comme on dit.
Qu'on ne connaît pas, et puis il y a des déséquilibres. Et c'est vrai que nous sommes souvent l'artisan de ces déséquilibres. On voit avec, par exemple, les perruches qui, dans le ciel de Paris, là, on a l'impression...
Qui sont arrivées à Vissou, tranquillement, dans un conteneur.
Exactement, et qui prolifèrent qui attaque les chauves-souris, les écureuils, voilà. En soi, elle n'est pas mauvaise, la perruche, mais elles ont trouvé des conditions qui mettent en péril d'autres. Voilà. Donc, ça, ce sont des espèces nuisibles. Et puis, les mauvaises herbes, c'est ce que décide l'agriculteur ou le jardinier. Donc, on peut aussi réfléchir à cette notion.
Tiens, ça m'intéresse d'avoir le regard de Jackie, paysan, agriculteur en Saône-et-Loire, qui nous a appelé tout à l'heure, sur ces oppositions bonnes, mauvaises herbes, espèces invasives ou pas. Parce que dans les haies, on retrouve des mauvaises herbes qui ne le sont pas considérées quand c'est une haie, mais qui le sont quand... elle prospère sur des cultures.
Alors, nous, la principale utilisation des haies, c'est la clôture des prairies. Et en fait, nous, alors, concrètement, beaucoup dans les vaches, maintenant, on a des clôtures électriques devant les haies. Parce que sinon, les animaux, les vaches, les taureaux, ils vont se gratter dans la haie, ils vont faire des trous, ils vont sortir. Avant, il y avait beaucoup de barbelés, et maintenant, c'est devenu plus la clôture électrique, ça veut dire qu'on a des piquets avec un fil devant, et voilà, pour pas que... Alors, le souci qu'on rencontre, en fait, c'est que les haies, elles poussent beaucoup. L'été, quand la haie, en fait, elle va prendre 50 cm dans une année, voire plus, hein, les ronces, ça touche les clôtures, et les clôtures, après, elles ne fonctionnent plus. Là, les bêtes peuvent partir. Alors, on se doit d'entretenir ça tous les ans. C'est ça notre travail, en fait, d'entretenir tous les ans pour que les bêtes ne se sauvent pas. Et voilà. Mais après, voilà, on est bien conscient aussi, les haies, c'est les escargots, c'est les oiseaux. Voilà, on sait. En fait, souvent, on oppose Moi, je le dis, écolos et paysans, mais souvent, les paysans...
Ce sont les mêmes.
C'est même, ils sont peut-être, parfois, pour moi, plus écolos que certains écolos. Bah, c'est mon avis.
Mais, c'est un autre sujet.
mais voilà, mais un paysan, pour certains paysans, un mot écolo, c'est un gros mot. Quand on parle, ils se rendent compte, en fait, voilà. Et ce que je voulais aussi, quand j'écoutais tout à l'heure vos propos sur l'arrachage, c'est vrai que c'est très vite fait d'arracher une haie, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, il y a tous les outils qu'il faut. Mais il faut savoir que moi, éleveur, je n'ai pas le droit d'arracher de haie aujourd'hui. Je fais des demandes d'aide à la PAC. C'est très vite contrôlé par satellite aujourd'hui. Si j'arrache une partie de haie, j'ai des pénalités qui tombent très rapidement. Et pourtant, aujourd'hui, on entend, alors c'est un peu par rapport au mouvement qui a eu lieu cet hiver et que les agriculteurs marchent sur la tête, on entend qu'on est prêt à importer de la viande de pays où on arrache des forêts entières.
Exact.
Ouais, tout à fait.
Et là, quelque part, il faut comprendre la révolte du monde agricole. On se dit, mais évidemment qu'on marche sur la tête. Et du coup, moi, ce qu'on essaye de dire avec nos viandes charolaises, mais dans le prix de la viande charolaise, il faudrait qu'il y ait l'élément d'entretien de la haie. Quand on achète la viande,
il n'y est pas.
Vous avez totalement raison.
Et aujourd'hui, on donne des aides pour replanter des haies, mais les gens qui les ont gardées depuis 50 ans, 60, 80 ans, on n'a jamais rien eu comme aide. Ça paraît complètement injuste.
Pour parler du travail des haies, il y a un écrivain qui est absolument formidable, un écrivain qui se dit lui-même écrivain paysan, c'est Jean-Loup Trassard. Et dans L'Homme des haies, il emploie notamment tout ce vocabulaire barbeiller, trogne, etc. Et c'est très intéressant de le lire.
Audrey Aligné, comme l'écrit Sonia Fertschak dans son livre, la haie est pour la faune un refuge, un site de rencontre, une crèche, un garde-manger. De quelle manière les haies jouent-elles ce rôle essentiel dans la biodiversité? Pourquoi sont-elles à ce point indispensable à la biodiversité? Expliquez-nous, Audrey Aligné.
Eh bien, en fait, les haies, comme je l'ai évoqué au tout début, sont des habitats pérennes relativement peu perturbés. Alors, bien sûr, elles sont gérées, mais de façon bien moindre que les parcelles adjacentes. Alors, bon, il y a encore des modérations à avoir. Bien sûr, quand on est sur une prairie, c'est encore un petit peu différent. Mais en tout cas, ce sont quand même des éléments assez peu perturbés, donc ce qui permet l'établissement, effectivement, d'habitats, de refuges pour la biodiversité, la faune en particulier. Ensuite, dans la haie, on trouve beaucoup d'espèces végétales différentes, dès lors qu'elles sont entretenues de façon à les laisser s'exprimer, et ce qui fait qu'on retrouve des ressources alimentaires pour de nombreux insectes et autres animaux. Donc ça peut être des fleurs qui produisent du pollen, du nectar pour les insectes pollinisateurs, mais c'est aussi des petits fruits, des champignons, etc., qui peuvent servir également à d'autres animaux. Et enfin, effectivement, c'est un lieu où les animaux peuvent effectuer une partie de leur cycle de vie, se rencontrent des sites de reproduction. Là aussi.
Sonia Fertschak.
Oui, il y a une notion que je trouve intéressante, c'est que souvent on a l'impression que la haie, c'est rien du tout, alors qu'au contraire, elle réunit souvent les qualités des deux écosystèmes qu'elle borde, et on parle d'écotone. Et donc, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment un écosystème ultra riche.
Denis Chessou.
Oui, donc c'est-à-dire que ce serait génial qu'on puisse se dire que quand même la haie est un allié. C'est-à-dire que pendant très longtemps, donc c'était une concurrente, c'était une contrainte. Et Jackie nous a très bien expliqué les deux côtés. J'ai rencontré moi il y a pas tellement longtemps donc grâce à Arbres et Paysages du Gers qui font un boulot absolument formidable sur le terrain. Un éleveur de pruniers. Voilà. Bon, donc ça s'appelle un arboriculteur quand même en français. Bon et donc par rapport à d'autres. Parce que je sais qu'ils sont vraiment dans le dur avec le gel, etc. Enfin, c'est très compliqué pour les arboriculteurs et là-dessus, on vraiment soutien de cœur. Mais cet homme-là, par exemple, il avait 10 nichoirs qui étaient et aussi dans les haies à mésanges par hectare. Il n'avait pas d'ennui du tout. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de ravageurs parce que la nature donc, faisait effectivement son boulot. Et quand on va comprendre un peu mieux quand même comment fonctionnent les écosystèmes, c'est-à-dire des choses de base, vous interrogez des Français, ils sont capables de vous filer la composition de l'équipe de France de foot, mais ça pas comment fonctionne une haie. Bon, très bien. Ça va changer évidemment complètement le regard. Et de se dire que ça peut vous ramener du bois, de la litière, de l'énergie, de la fertilité, un abri anti-vent, que ça va ramener aussi donc, du carbone, ça va vous faire aussi un paillage complètement naturel, là, on va quand même se rendre compte que...
également limiter les effets des inondations. On l'a
évidemment.
Vu dans le Pas-de-Calais, par exemple.
Bah, il en manquait.
Les maires et les habitants demandaient le retour des haies.
Mais oui.
Et je rebondis sur ce que vous dites, Denis, les mésanges mangent notamment les pyrales. Chenilles qui ravagent les buis. Et j'ai rencontré des agriculteurs qui, de plus en plus, plantent une bande herbacée, donc le le petit degré de la haie en intra-parcellaire pour utiliser moins d'intrants, parce que justement, il y a des carabes, il y a les cirfes, ces petites mouches qui ont l'air de guêpes, là, qui mangent plein de pucerons, dont les larves mangent des pucerons. Donc, il y a tous ces animaux qui sont des auxiliaires.
Allez, on continue à s'intéresser aux haies. Plaisir esthétique et poétique de la haie dans quelques instants. On écoute Alain Chamfort, La Grâce.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce, ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, aurais-je sans la voix chercher, parler devant, parlant de moi, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment, ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses. Par la vie qui tabasse, aurais-je su fondre la glace.
Alain Chamfort interprétait La Grâce.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Que raconte les sur nous, sur notre société, sur notre rapport au monde vivant ? Et Florence qui nous écrit ce joli message. Pour moi, les haies évoquent sans hésiter mes vacances chaque année en Normandie, où les haies regorgées de mûres. Enfants parisiens ou normands, nous partions avec des pots à lait pour ramasser ces fruits dont on faisait de la gelée avec nos mamans. Nous avions chacune et chacun une tartine de beurre au sucre. Nous posions délicatement les mûres sur la tartine et les mangeons goulûment avant le début de notre récolte, en contemplant le travail des abeilles et les coccinelles. Nous rentrions sans interdiction dans tous les champs sous l'œil bienveillant et amusé des fermiers qui s'occupaient du bétail. Voilà un message de Florence. La haie, c'est un enjeu esthétique, car elle dessine les paysages. C'est un plaisir esthétique, parce qu'il faut prendre du temps pour les apprécier, notamment à pied. Vous faites l'éloge de la découverte des haies à pied. Désolé pour le cycliste que vous êtes.
Tout ceci est pareil. On est contemplatif dans les deux cas.
Parce qu'il faut, il faut prendre le temps pour en apprécier toutes les richesses et laisser aller son imagination quand on imagine le hors-champ, ce qu'on ne voit pas quand on parcourt une haie en prenant son temps.
C'est-à-dire que la fréquentation des haies mobilise tous nos sens, et c'était très joli ce qu'on vient d'entendre, là, ce que l'auditrice envoyait. Et c'est vrai qu'il y a les murs dans le pot à lait, les murs s'attachent, ça pique, on les détache, on se retrouve à égalité avec les insectes. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des punaises des bois, quand elles se mettent sur un fruit, après ça pue, il n'est pas bon. On engage notre corps, en fait, dans la fréquentation des haies, on renifle, c'est-à-dire qu'on peut détecter un parfum. Tiens, ça sent le troène, ça sent le chèvrefeuille, ah oui, il est là. On se retrouve comme un animal, et ça me paraît très puissant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a beaucoup de auditeurs là, qui interviennent.
Et vous le dites dans votre livre, donc, les haies sont propices à la rêverie, en imaginant ce qu'il y a hors champ, ce hors champ qui nous invite à l'humilité. Nous ne sommes pas tout puissants, nous autres humains. Une immense partie de la vie sur Terre nous échappe, et la haie en est un bel exemple.
Oui, j'ai fait ce pont, finalement, entre ces bruits qu'on entend dans la haie, et on ne sait pas si ce sont justement un hérisson ou un renard ou un monstre. Quand on est enfant, on imagine plein de choses dans la haie. Et le fait qu'effectivement, la Terre nous échappe in fine, et c'est peut-être l'autre chose que j'aimerais, à laquelle on pense après la lecture de mon livre, c'est qu'on ne soit plus sans y penser quand on consomme la nature, quand on l'abîme, quand on la détruit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas arracher une haie de temps en temps, abattre un arbre quand c'est strictement nécessaire, mais il faut y penser à tout ce que ça nécessite comme travail de la nature.
Denis Chessou.
Jacques Prévert disait « Il y a des choses derrière les choses ». Et donc, ça, c'est toujours important. Et d'autant que cet homme a terminé sa vie à Aumonville-la-Petite, donc dans le Cotentin, donc à la Hague, qui signifie donc l'enclos. Et là, c'est extraordinaire, parce que vous avez à la fois des mélanges de murets, donc de granit, donc qui vont délimiter les parcelles, et aussi donc de ces bocagères absolument incroyables, et qui permettent aussi à l'imaginaire de gambader.
J'y étais la semaine dernière.
Allez, un petit sourire avec cette note vocale laissée par Karen.
Bonjour Grand Bien Vous Fasse. Alors moi, la haie de mes voisins à Divonne-les-Bains avait été fort utile quand j'étais petite, car ma mère nous cuisinait souvent des légumes dont je n'étais pas du tout fan, que ce soit des courgettes ou des côtes de blé, tout ce genre de choses. Et un été, j'avais pu aller mettre toute mon assiette dans la haie des voisins. Donc c'est... un souvenir très, très... Voilà, la haie m'avait vraiment dépanné et ma mère n'avait jamais rien su. Voilà, merci les haies.
Voilà, ça sert aussi à ça.
Ça fait du compost.
Pas mal, hein. Ça fait du compost.
Et bien sûr.
Merci beaucoup à tous. D'ailleurs, vous terminez votre livre en disant, Sonia Fertschak, que l'écologie n'est pas punitive avec la haie.
Ah oui, ça c'est important aussi. C'est vrai qu'en ce moment, quand on pense à l'écologie, il ne faut plus acheter de fringues, il ne faut pas prendre l'avion, il faut moins manger de viande, etc.
Mais c'est la société qui est punitive, hein, ce n'est pas l'écologie.
Hein, exactement, mais la fréquentation des haies, c'est joyeux.
Merci beaucoup. Ah pardon, Denis Chessou.
Oh, juste une chose. Un petit coucou à Chimène, lorsqu'elle donnait un cours rapide à Rodrigue, si vous voulez, donc sur le jardinage, elle y a dit « Va, je ne te hais, point !» Voilà.
Merci Denis. Merci Sonia Fertschak. Je recommande vraiment votre éloge de la haie. C'est très, très informé et puis c'est très bien écrit. Pour un désordre végétal, c'est publié chez Philosophie Magazine Éditeur. Merci Denis Chessou. Vous, on retrouve dimanche à 14h
oui,
le programme CO2
je serai,
Mon Amour.
Je serai au bord de la Moselle avec un jeune garçon qui s'appelle Victor Noël.
Il a 18 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et puis qui est aussi un fou de haie de nature.
Merci beaucoup Audrey Aligné de nous avoir accompagné ce matin. Et demain, eh bien, c'est le plaisir de regarder des films de Steven Spielberg dans Grand Bien Vous Fasse, loisirs, plaisir et curiosité. Bonjour Nagui.
Bonjour Ali, aujourd'hui c'est Anne Brochet qui est notre invitée pour l'armoire de vie, vous savez ces fameuses armoires pharmacie, celles avec les trois miroirs qu'il y a dans nos salles de bain et qui cachent pas mal de secrets.
Bonne émission Nagui.
Attention, attention, voici une publicité pour Monsieur Meuble. Donc, si vous aimez des meubles inconfortables, mal faits, standards, eh ben n'écoutez pas. Et oui, parce que chez Monsieur Meuble, les meubles sont confortables et bien faits. Mais surtout, vous bénéficiez de conseils personnalisés pour trouver votre meuble idéal et de solutions de paiement adaptées à votre budget. Monsieur Meuble, et vous êtes bien chez vous.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films.